Are you going to sit at the table because you're, like, important? If you sit at the table,
I'm or not.
You know, inside.
These little crystal little corner, right?
Yeah.
Said, oh, sorry.
You know what? They're very well prepared. They don't
good, thank you very much. I cannot complain. Just one second. Not a big tip, you know, just in case you think that it's necessary to pay attention.
Good.
Yeah.
So, I'm more than happy to be a side. That on the screen, we were all working together, and it was just like free flowing. I'm like, what? And so there's a lot of time just talking in general. Like, there was no guidance or direction. So
I put a bunch of comments in there.
It is 3:16 according to this clock. If that you are.
Nouvel intervenant. Il est 15h16. Donc, si nous pouvions bien commencer, s'il vous plaît, venez vous asseoir.
Come on, folks, grab your seats, let's get going. We're eating into valuable contracted parties.
Vous voulez bien venir vous asseoir, s'il vous plaît?
Good, how are you, man?
Let's all take our...
Une fois de plus, si vous voulez bien vous asseoir. Ainsi, nous pourrons commencer. Merci.
All right. We are going to start.
Nouvel intervenant au micro. Oui, nous allons donc commencer. Nous allons faire un appel à la table, autour de la table. On commence par James Pledo de GoDaddy. Jonathan Robinson au micro. Groupe des bureaux d'enregistrement avec Affilias. Karen Day, John Nevin, avec Donuts, John Levitt. Samantha Demetrio avec VeriSign. Johan Marby, ICANN.org. Brian Bontin avec Two Cows. Paul Diaz. Christy Spain, Becky Burr, Keith Dreisick, Michele Nayland, Rubens, cool. Ensuite, Chris Despen, oui, vous voulez bien vous présenter? Oui, Chris, Stéphane Galder, vice-président pour le département des politiques. Je pense que nous allons commencer avec les questions que nous avons reçues, dit Becky Burr. Est-ce que ces questions sont à l'écran? Ce n'est pas grave parce que je les connais. Paul Diaz va donc présenter le premier point de discussion. Monsieur Diaz, au micro, où sont les questions? Ah oui. Nous allons parler du budget, me semble. Donc, le premier point de discussion est celui-ci. Le budget et la réticence pour rendre les excès des frais de candidature. On parle donc de la double facturation pour le clearinghouse des marques déposées. Le clearinghouse relève d'une cotisation spéciale. Il s'agit de 5 000 $ par candidature et nous pensons que cet argent devrait être rendu aux candidats. L'ensemble des fonds, donc l'excès de ces fonds, est important. Donc, tout cela a coûté moins qu'on l'avait pensé. Donc, nous avons argumenté sur ce sujet et nous nous sommes dit qu'il était temps et qu'il y avait maintenant une opportunité pour l'organisation de travailler avec les bureaux d'enregistrement. Et nous voulons apporter ce sujet sur la table de discussion avec le Conseil parce que nous savons qu'il y a des inquiétudes de budget en ce moment. Nous savons que dans ce cas-là, les fonds sont là. Ils ne font pas partie d'un budget régulier, mais l'argent est là. Donc, nous espérons que le Conseil va comprendre. Nous serons heureux de partager plus de détails sur ce sujet. Nous voulons donc encourager l'ICANN à résoudre cette question. Becky Burr au micro. Oui, le Conseil en a parlé durant l'atelier de travail. L'organisation a donc parlé des 5 000 $ en question et nous ont informé qu'ils avaient conclu et que ces 5 000 $ d'excès, du moins cet argent ferait partie des excès donc de cotisation et qu'elle serait donc rajoutée et que le délai continuer à faire partie de la discussion. Nous avons encore certaines questions qui doivent être résolues. Donc, je peux vous confirmer que nous nous sommes mis d'accord que ces 5 000 $ par participant, par candidat, seraient attribués au fonds dont on parlait tout à l'heure. Paul Diaz au micro, je voudrais qu'on parle du délai. Cela fait 5 ans qu'on en parle. Donc, avec cet excès, ce surplus de plus de 80 millions de dollars, je pense vraiment que j'ai du mal à comprendre comment le personnel peut continuer à nous dire qu'ils peuvent, qu'ils doivent avoir cet argent en réserve au cas où nous aurions des problèmes juridiques. Mais nous n'en arriverons jamais à cette somme. Je pense qu'il y a quelque chose d'incorrect. Que va donc, comment allons-nous réconcilier ce problème? Est-ce qu'on doit encore attendre? Combien de temps? Combien de temps cela va-t-il prendre? Il est difficile de comprendre et nous aimerions un peu plus de clarification à ce sujet. Alors, est-ce qu'on doit attendre encore une fois? On parle de 6 millions de dollars. Si toutes les frais d'application doivent être remboursés, il s'agit seulement d'un petit montant du fonds de réserve qui existe. Chrissy Spain, en premier. En tant qu'avocat, je peux vous dire qu'à 80 millions de dollars, ça semble pas, c'est pas une somme énorme. On pourrait les dépenser. Non, mais je blague. Mais en fait, c'est tout à fait faisable. En tant qu'avocat, le délai pourrait être très long. Il est difficile de dire, voilà, bon, on doit, le temps est passé, ça suffit. Mais je comprends et je comprends votre point de vue. On ne peut pas donc rester sur cet argent pour beaucoup plus longtemps. Si je pouvais vous donner une réponse, tout ce que je pourrais vous dire, c'est que nous ne sommes pas arrivés à un moment où nous sentons à l'aise avec cela. Nous allons donc en discuter, revenir vers vous et vous dire, nous pensons qu'un délai raisonnable serait tel ou tel délai. Je sais que ce n'est pas la réponse que vous attendiez, mais c'est tout ce que j'ai pour vous en ce moment. Paul Diaz, oui, j'apprécie votre candeur sur ce sujet. Quelqu'un d'autre veut en parler? Vous avez donc entendu la réponse du conseil. Y a-t-il d'autres questions? On a l'impression que la moitié d'une réponse est mieux que pas de réponse du tout. Mais nous continuerons la conversation, donc. Passons à la prochaine question, encore liée aux finances. Comme vous le voyez sur l'écran, la question est celle-ci. Nous voulons voir s'il pourrait y avoir une meilleure utilisation durant l'exercice fiscal 2017 du budget et du rapprovisionnement du fonds de réserve, sans mettre plus de pression, bien sûr, sur la chaîne de valeur qui est déjà compliquée. Nous voulons donc nous focaliser sur cette réserve de fonds. Est-ce qu'il y a des manières de le réapprovisionner en ajoutant des frais, des cotisations qu'on pourrait appeler des cotisations extraordinaires, des cotisations supplémentaires sur les bureaux, pour les bureaux d'enregistrement et pour les titulaires de noms de domaine? Nous voudrions savoir d'où viendrait une possible stratégie de réapprovisionnement. Je voudrais passer la parole à Jonathan ou à James sur le sujet. Jonathan au micro. Merci, Paul. James au micro, pardon. Jonathan et moi avons participé aux commentaires qui ont été soumis sur le budget de l'exercice fiscal 2019. Et nous étions les opérateurs et les bureaux d'enregistrement étaient d'accord sur beaucoup de ces commentaires, sur ces inquiétudes, disons. Nous avions eu des idées spécifiques sur les stratégies de réapprovisionnement du fonds de réserve et nous avons fait des propositions que vous n'aviez peut-être pas considérées par avance. Mais le ton du forum public hier était tel que nous avons senti que nous avions dit que vous aviez besoin de ces choses, que nous ne pouvions pas faire des réductions, etc. nous voulons que vous compreniez que nous savons que vous prenez des décisions difficiles et que vous deviez continuer à collaborer avec la communauté. Venez vers nous et nous pourrons ainsi vous apporter du soutien. Jonathan va vous donner un petit peu plus de détails sur les questions et les commentaires que nous avions faits à propos du budget et des fonds de réserve. Jonathan Robinson au micro, merci James. Nous avons tous les deux travaillé, mais séparément, sur la coordination, l'équipe au sein bureaux des opérateurs et des bureaux d'enregistrement. Comme vous savez, il y a plusieurs forums sur le sujet du budget. Donc là, il s'agit de l'approche stratégique aux finances de l'ICANN et comment elles sont formulées dans le budget de l'ICANN. Comme l'a dit James, nous sommes en soutien complet par rapport au travail que vous faites au Conseil et nous savons que vous, Yoran, le PDG, vous puissiez gérer vos finances et vivre selon vos moyens. Nous avons émis donc des commentaires. Nous n'avions pas beaucoup de temps. Vous savez que, comme pour tout le monde, nous avons été distraits par le RGPD. En fait, toutes nos réponses étaient plus ou moins en accordance. Ce n'était pas surprenant. Les points clés qui en sont ressortis sont ceux-ci. Nous avons dit que l'ICANN vivait avec ses moyens. On ne voulait pas dire dépenser vos revenus, mais dépenser moins que vos revenus. Donc, nous aimerions que vous dépensiez donc moins que ce que vous recevez en recettes, si vous voulez. Il faut être donc préparé à utiliser le surplus qui est généré pour contribuer au fonds de réserve. Nous pensons que ce serait la bonne manière de faire, c'est la bonne manière de faire fonctionner une entreprise. Il y avait des inquiétudes au sein de notre groupe lorsqu'il s'agit des projections et nous voulons vous aider à faire cela de façon adéquate et de façon conservative, du moins le plus possible. C'est un sujet sensible parce que pour nous, de revenir en arrière et de vous encourager à être plus conservatif pourrait avoir un impact sur nos affaires, surtout sur les IPO. Nous devons concerter avec vous de façon constructive pour vous aider à faire des projections qui soient exactes, du moins le mieux possible. Donc, le surplus est ciblé. Nous voudrions que cela soit accompli. Et nous voudrions qu'il y ait une contribution au fonds de réserve. Nous pensons que la mission de l'ICANN, c'est l'élaboration de politiques. Et nous voudrions que cela soit bien financé. Et nous vous soutiendrons dans vos actions pour que cela se produise. Nous croyons vraiment que l'élaboration des politiques doit être encore une fois bien financé. Peut-être Jeff pourrait en parler, mais nous, encore une fois, il faut qu'on parle des délais d'élaboration de politiques et du financement de l'élaboration des politiques. C'est un de nos points clés. Aussi, le coût du personnel et les financements des voyages et des transports. Ces budgets-là ont beaucoup augmenté durant les années passées, donc nous vous encourageons à contrôler cela et d'y faire face de façon appropriée. Une question spécifique sur ce sujet est celle-ci. Vous avez parlé de 85% du budget, 85% du budget. Et vous avez parlé d'un budget discrétionnaire. À notre point de vue, ces dépenses de personnel ont continué à croître durant le passé, durant les dernières années. Donc, nous voulons comprendre pourquoi vous ne pouvez pas faire face à ce problème. Voilà donc certains de nos commentaires, de nos sentiments. Et là, comme vous le savez, il s'agit de dialogue. Nous essayons de communiquer avec vous et de mieux comprendre. Donc, il y a certaines contributions qui sont venues des parties contractantes. Et il y a eu d'autres discussions sur ces sujets auparavant. Donc, je vais m'arrêter là. Becky Beur au micro. Je pense que Charine va parler de la question du fonds de réserve. Charine Chalabi au micro. Merci, James et Jonathan. Vous avez mentionné le budget de l'exercice fiscal 2019. Et donc, je voudrais revenir sur certains des points que vous avez fait à ce sujet. Vous avez parlé du fonds de réserve. Je vais rajouter un point de discussion dessus. Vous avez parlé de la pression qui pourrait être mise sur une chaîne de valeur qui est déjà compliquée. Je pense que nous avons été très clairs dans notre document que nous vous avons envoyé. Nous n'avons pas suggéré que les parties contractantes fassent des contributions au fonds de réserve. J'espère que vous avez bien lu ce message. Je peux vous assurer que nous en resterons à ça. En ce qui s'agit des dépenses, qu'elles soient de diminuer les dépenses par rapport aux revenus, je suis à 100% d'accord avec vous. Nous avons déjà mentionné quelque chose et je vais le lire. Le budget futur pourrait être fait pour contribuer au fonds de réserve. Il faut donc qu'ICANN puisse planifier à ce que les dépenses soient moins élevées que les revenus. Je pense que nous sommes absolument d'accord sur ce point. Une autre chose dont je voudrais vous parler, c'est cela, la gouvernance du fonds de réserve en lui-même. Donc, jusqu'à présent, nous avons publié deux documents de consultation. Le premier était sur le niveau. Quel devrait être le niveau et quel doit être l'objectif de ce fonds? Pourquoi? Comment pouvons-nous gérer donc ce fonds? Je pense que la communauté a répondu. On était tous d'accord que le niveau devait être de 12 mois et nous avons donc voté sur une résolution à ce sujet. Et faites vos calculs et vous allez voir qu'il y a un déficit de 68 millions. Et ce document que nous avons publié vous démontre quelles sont les sources variées. Et les idées que nous avons ne vont pas mettre la pression sur les parties contractantes. Lorsque nous en avons terminé, nous allons continuer à travailler sur ce qui est de la gouvernance. Cela veut dire, et là il s'agit de parler des politiques, de la gestion du fonds de réserve. Et nous voulons publier un document de consultation afin d'être transparent vis-à-vis de la communauté. Je pense que nous sommes alignés sur ces trois points. N'êtes-vous pas d'accord? Nouvel intervenant. Oui, Sherine, c'est très utile. Oui, dans beaucoup de... Nous sommes assez d'accord, mais nous voulons vous parler de ces deux sujets. Et comme vous l'avez dit, tout cela est lié. La réponse des opérateurs de registre sur le quantum du fonds de la réserve pour parler de l'approche dont vous avez mentionné. Il s'agissait d'un délai de 6 mois. Je pense que la consultation du public vous a amené à une décision de 12 mois. Mais vous savez, il reste encore une inquiétude sur le fonds de réserve. Car il doit être complètement financé. Complètement, donc en 12 mois. et ce fonds, il ne faut pas qu'il serve de fonds d'urgence. Je ne sais pas si on doit en parler en détail maintenant, mais je pense que dans le contexte, il est intéressant de reconnaître le commentaire qui avait été émis. Jean Chalabi, dès que vous avez mentionné cela, Xavier a sauté de sa chaise.
I will start.
Il y aura nos micros. Revenons à certaines des choses. Nous avons en fait partagé les mêmes. J'aimerais partager les mêmes choses que ce que j'ai dit aux autres. Donc je vais faire ma petite danse du budget. Peut-être que vous n'avez pas posé la question, mais je pense que c'est intéressant de vous le communiquer. Donc certes, oui, le financement commence à être plat. Nous avons 8 millions de financements en moins cette année. C'est 5%, donc ce n'est pas énorme. Nous apprécions toujours davantage de points de vue. Je crois que pour la plupart d'entre vous, vous nous avez donné des chiffres adéquats. Vous avez utilisé le mot gros. Alors, avant de rentrer dans le détail, 885, il y a eu des questions par rapport au programme de financement des déplacements, mais je dois dire qu'actuellement, nous sommes en train de travailler à l'efficacité de l'ICANN.org et on n'aurait pas survécu à l'année si on ne l'avait pas fait. L'année prochaine, donc, nous sommes en train d'augmenter les dépenses pour la communauté de 12% en matière de déplacement et nous avons réduit de 12% les dépenses pour le personnel ICANN.org. Et ça, sans remettre en question les réunions. Alors, cette semaine nous montre encore une fois que l'ICANN est fantastique parce qu'une des choses que je ne peux pas faire, et j'apprécie le fait de pouvoir jeter la première pierre, pour ainsi dire. Donc, on essaie d'être plus transparent. Mais c'est une discussion très intéressante parce que la question, c'est sur les coûts fixes. Vous savez, dans la proposition de budget que nous allons retarder d'un an, il y a quelque chose dans les statuts qui dit que c'est un an plus tard. Alors, moi, il faut que je le mette dans le budget. Donc, ce qui ressort pour moi dans cette réunion, c'est qu'il faut qu'on arrête de parler des 85%, parce que les 85%, c'est ce qui ressort des révisions, des statuts et des politiques. 2019, c'est un petit peu la catastrophe parfaite, parce que nous avons un aplatissement des financements par le biais des politiques. Nous avons rotation des réunions, nous allons au Japon. Cela coûte plus cher. C'est également la première année, en fait, où on a la totalité des coûts de toutes les mesures de transparence que nous avons mises en place pour la transition. Donc, vous voyez que le personnel vient de la transition. Le personnel, en plus, c'est la transition. Pas tout, mais en partie quand même. Et nous avons également le programme des nouveaux GTLD à mettre en place. Alors, si on se concentre sur les 85%, le problème, en tout cas, je ne savais pas qui doit commencer la discussion, mais je suis très heureux que l'on en parle. Il faut être prudent du point de vue financier, pas seulement sur un an, mais sur les années à venir. Et je me suis rendu compte au cours des quelques jours passés que nous vous épuisons. Nous vous donnons beaucoup de travail. Avoir 9 révisions l'année prochaine, y compris une sur la responsabilité, quand je dis ça aux gens, les gens me disent « Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» La réponse, c'est pas moi, c'est vous, c'est nous. Parce que ce qui est intéressant, c'est également que dans 3 à 4 ans, nous en aurons une ou deux. Alors, moi, mon personnel, j'ai en fait une équipe minimale et je suis pour les révisions et je suis obligée d'aller à l'extérieur chercher des experts. Et en plus, nous vous demandons de faire beaucoup plus de révisions. C'est un petit peu comme de se regarder le nombril plutôt que de faire des politiques. Donc, On a un budget avant Noël pour s'assurer que tout se passe bien pour Noël, que vous passez une bonne période de fête. Et ensuite, on vous donne un peu de temps pour envoyer des commentaires. Il en a eu 150, je crois. Et ensuite, on prépare des supports, on prend une décision sur le budget et ensuite, la communauté habilitée peut faire son travail. Donc, tout ceci a été fait. Il me semble qu'on devrait faire ceci sur 2 ans. On pourrait peut-être avoir une période de 2 ans pour consulter le budget, de manière à avoir le temps dans la communauté de vraiment réfléchir à ces questions sans avoir la pression de l'urgence. Donc, je suis très heureux d'avoir cette discussion. Je suis très heureux d'avoir votre soutien. Et comme Chérine l'a dit, par rapport au fonds de réserve, ceci viendra des opérations. Cela représente beaucoup d'argent. Mais il faut parler des 80-85%. Nouvelle intervenante. Nous allons passer à Chérine. Pardon, Jeff. Jeff, allez-y. Jeff au micro. Jeff Newman. Les registres m'ont demandé de parler un petit peu de quelque chose qui a été dit. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc, Yoran, vous avez dit qu'il y aurait un budget d'opérationnalisation des nouveaux GTLD. C'est ça que vous avez dit? Yoran au micro. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ça, c'est un des problèmes techniques. OK. Alors, très bien. Vous avez posé une question de principe, donc j'aimerais y répondre. J'ai peut-être déjà répondu à votre question. Nous avons un problème parce que nous mettons dans le budget des choses qui ne sont pas décidées par la communauté. Nous avons une discussion au sein du Conseil actuellement par rapport à ça, mais c'est compliqué. Ce n'est pas que ce programme. Nous avons des discussions par rapport au WS2 et d'autres initiatives. Et c'est compliqué pour nous de dire nous anticipons que la communauté aura une solution à telle chose. Parce que vous allez examiner ceci et vous allez nous dire, mais non, ça n'a pas encore été décidé. Vous allez me dire, Yoran, vous êtes en train d'interférer dans le processus d'élaboration de politique. Donc, c'est une question de principe. Nous avons pu nous débrouiller lorsqu'on avait des financements qui étaient en augmentation, en ajustant des petits points, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, ce que l'on fait à la place, c'est que nous sommes impliqués dans le financement. Mais je crois qu'on est d'accord sur le principe. On ne va pas mettre des choses dans le budget si ça n'a pas été décidé par la communauté. John au micro. Je suis d'accord sur le principe de ne pas intégrer les choses dans le budget, à moins que ce soit une décision qui a été prise par la communauté. Mais c'est quelque chose qui a été décidé en 2008 par la communauté. Et le Conseil a approuvé le processus de nouveau GTLD de lancement, pas seulement sur une série, mais c'était un processus prévisible avec l'introduction de nouveaux GTLD. Et à l'époque, l'idée, c'était que la nouvelle série serait lancée sur un an après. Donc c'est critique, c'est important, ça a été décidé. Alors, autre chose que je voulais dire, avant le début de la série de 2012, la prévision s'est faite en 2007, donc ça faisait 6 ans. Alors, à l'époque, on pensait que le lancement des nouveaux GTLD, ce serait en 2010. Mais c'est quand même 3 ans avant, 3 exercices avant. Donc, dire qu'on ne met rien de côté maintenant, c'est non seulement dire qu'on ne pourra pas lancer une nouvelle série en 2019, mais c'est également dire non à 2020, non à 2021. Donc ça, c'est critique. Et j'ai toute une liste de choses qui ont été faites et qui sont là, et je les passerai en revue avec Xavier demain lors de la séance sur le budget, sur tout ce qu'on a fait pour se préparer pour la série de 2012. Il y a des décisions qui ont été prises, malheureusement, lors de la série de 2012. On ne peut pas changer ça maintenant. Par exemple, le système de candidature qui était un système à utilisation unique. Donc voilà, nous avons maintenant un système de candidature qui est différent. Il y a beaucoup de choses que l'on fait maintenant. Mais on ne peut pas se retrouver dans la situation où il faut attendre que le Conseil prenne une décision d'approbation d'une politique qui sort de la GNSO avant même d'avoir pensé à la mise en œuvre. Et sinon, on ne parle pas uniquement de 2021-2022, on va jusqu'à 2025. Hein, et je vous rappelle ce qui s'est passé en 2012. Si on ne peut pas lancer d'ici 2021-2022, ce sera une décennie d'attente entre le lancement des deux séries. Et ça, ce n'est pas quelque chose que l'ICANN peut approuver. C'est... Alors, la communauté n'a jamais demandé au Conseil de s'arrêter. Le Conseil a dit à la communauté qu'il attendrait que la communauté, encore une fois, demande un recommencement de la nouvelle série. Donc déjà, c'était quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et le budget, ce n'est pas des dollars en plus, c'est la réallocation au programme des nouveaux GTLD. Alors, je ne vais pas contrôler le personnel, mais allouer les responsabilités pour le travail sur les programmes. Vous devez établir les priorités, les programmes, selon ce qui a été décidé par la communauté avant de passer à d'autres projets. Et la GNSO a approuvé de manière unanime, le Conseil aussi. Et ça a été répété en 2014, 2015, 2016. On nous a dit, nous allons lancer la nouvelle série aussi rapidement que possible. Merci. Merci à la personne qui m'applaudit. Il n'y en a qu'une. Nouvel intervenant au micro. Alors, Jeff, je l'ai dit au conseil de la GNSO. 1. Le conseil est engagé par rapport à la nouvelle série. Nous avons un atelier dans un mois et nous allons nous préparer à cette nouvelle série une fois que nous aurons reçu les recommandations de la GNSO sur le PDP. Donc, nous comprenons les délais, le calendrier, parce qu'on arrive à la fin du PDP et on va prendre le temps de réfléchir avec le GDD, avec Yoran, pour préparer ce qui doit être fait pendant l'exercice 19, pour voir un petit peu d'où va venir l'argent. Donc, nous vous avons entendu. Vous n'êtes pas content, c'est ça, John au micro? Très bien, c'est une bonne nouvelle. Je sais que la série ultérieure, les personnes qui s'en occupent seront très heureuses de le savoir et qu'il y aura des volontaires. Si vous avez besoin d'autres supports de préparation pour votre atelier, nous pouvons vous les fournir. Donc j'apprécie énormément cette réponse. Merci. Stéphane au micro. Merci beaucoup. Par rapport à la question des révisions, j'aimerais répéter quelque chose dont on a parlé plus tôt pendant la journée des unités constitutives, mais je crois qu'il faut également le mentionner ici. L'impact budgétaire des révisions est associé au nombre de révisions. Et également, il y a l'étendue dans le temps de ces révisions. Il n'y en a qu'une, ATRT 3, qui a des délais précis sur un an. Les autres ne sont pas limités. Donc, il est tout à fait possible qu'il y ait un impact budgétaire très important. Yoran l'a dit tout à l'heure, il y a énormément de révisions. Donc, c'est non seulement un impact budgétaire, mais c'est aussi l'impact sur la communauté des bénévoles, un impact sur la possibilité que l'organisation absorbe toutes ces révisions. Et donc, si on s'embarque dans 9 révisions qui, pour beaucoup, n'ont pas de calendrier spécifique, il est tout à fait possible qu'on se retrouve dans une situation où, à la fin des révisions, on doit de nouveau lancer les révisions. Et en fait, on ne fera que le travail d'analyse et on ne fera rien de pratique. Et en termes budgétaires, c'est justement ce dont on parle, ça n'a absolument aucun sens. Nouvel intervenant. Stéphane, je suis d'accord avec vous, mais une petite correction quand même. En fait, la TRT 3, ce n'est pas obligatoire qu'elle soit limitée dans le temps. Les termes utilisés, c'est qu'elle devrait se terminer dans un délai précis, mais que ce n'est pas une obligation. Mais je suis d'accord avec vous. Il y aura nos micros. Est-ce que je peux poser une question par rapport à ça? Donc, Si je repars de la réunion et que j'obtiens un document avec le conseil sur les 85% et si j'inclus les révisions, qu'est-ce que vous allez répondre ? La cadence des révisions, donc, par exemple, est-ce qu'on pourrait peut-être travailler là-dessus ? C'est un changement au statut. Est-ce que c'est une bonne idée, à votre avis ? C'est quand même une question importante. À votre avis, est-ce que c'est une bonne réponse ? Alors, il faut être enregistré. Il ne faut pas simplement hocher de la tête, s'il vous plaît. Keith au micro. Merci, Johan. Donc, Keith, Jaurès. Oui, je pense que c'est une excellente idée. Honnêtement, je crois que les révisions sont extrêmement importantes. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas uniquement se regarder le nombril, c'est un mécanisme de responsabilité et il faut le faire de manière appropriée. Mais pour bien les faire, il faut s'assurer d'avoir à la fois les ressources dans la communauté, qu'on a suffisamment de bénévoles, de personnel, l'attention du conseil au bon moment pour s'assurer que ces révisions soient bien faites. Alors, en avoir 9 qui sont lancés dans une seule année, c'est de toute évidence complètement aberrant. Donc, effectivement, vous avez dit que vous jetiez la première pierre et qu'il fallait lancer la discussion, et je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est une excellente idée. En tout cas, moi, je vous soutiens. Et je pense effectivement que le rythme doit être adapté. John Nevett au micro. Je suis tout à fait d'accord. Également, c'est une excellente idée. Je crois que chaque dollar qui peut être éliminé du budget nous permet d'avoir 2 dollars dans le fonds de réserve parce que les budgets descendent. Et donc, c'est un double bénéfice. Il faut absolument qu'on réfléchisse à cette question. Il faut se serrer la ceinture. Il y a une certaine pression du côté des revenus, comme on l'a dit, avec des prévisions conservatrices peut-être, mais il y a également une certaine pression. On a parlé tout à l'heure des nouveaux TLD. On est à 80 millions en frais de candidature en excès. En février, c'était 95,8 millions. Et les coûts ont augmenté de 8 millions de dollars. Et 4,6 millions d'augmentation pour le budget des nouveaux TLD. Donc, on va prendre de l'argent de ce fonds des nouveaux TLD, on va l'utiliser pour les opérations. Donc, il faut faire attention. Ça, c'est un problème. Ça va causer encore plus de pression. Donc, plus on a de pression sur le budget, plus on a de pression sur les coupes budgétaires. Donc, le montant dont on a besoin dans le fonds de réserve, à ce moment-là, sera inférieur. Donc, je suis tout à fait d'accord. Merci, Yoran, pour cette idée. Nouvel intervenant au micro. Xavier, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ? Non ? Alors, je crois que j'ai utilisé le chiffre de 80 tout à l'heure, mais c'était une approximation. Hein. Je ne veux pas que ce soit enregistré. Je ne sais même pas où est le montant exact. Hein. Jonathan, allez-y. Jonathan au micro. Est-ce que des personnes souhaitent répondre directement à John ? S'il n'y a pas de réponse directe, je vais le faire. Alors, 2 points. Par rapport aux révisions, par rapport au rythme des révisions, je suis d'accord avec Yoran. Il faut qu'il y ait un document qui suggère comment planifier les révisions. Par exemple, pour le cycle financier à venir, que ce soit sur 3 ans ou sur 5 ans, nous allons travailler avec vous pour optimiser le rythme. Pour moi, c'est un projet autonome. C'est séparé de la question des 85%, à mon avis. Je vois que c'est lié, certes, parce que les révisions font partie des dépenses, mais je pense que c'est un projet séparé, de manière à ce que peut-être d'autres problèmes ressortent qui pourraient aider l'organisation, qui puissent vous aider, vous, Yoran, et l'organisation, à mieux gérer votre travail. Donc il y a peut-être d'autres domaines qui ressemblent. Donc séparer les deux, à mon avis, c'est la bonne approche. Déjà les révisions et puis après d'autres domaines qui peut-être pourraient être améliorés et permettre à l'organisation d'être plus efficace. Merci. Michele au micro. Très brièvement, je suis tout à fait d'accord par rapport aux commentaires qui ont été faits par rapport à ce nouveau terme, donc le rythme des révisions. Mais en termes de budget, en général, il faut se concentrer sur les projets qui sont liés à la mission de l'ICANN directement. Et cela veut dire donc servir les parties contractantes, être au service des parties contractantes. Donc on a déjà demandé à Yoran et au conseil d'administration ce qui s'était passé par rapport au conseil des bureaux d'enregistrement. Alors, le calendrier qui nous a été présenté ce matin était en fait un peu déprimant. Et donc j'aimerais savoir pourquoi le calendrier était aussi long. On nous a dit que c'était un manque de ressources par rapport à ce projet précis. Donc on aimerait bien vous demander de nous allouer davantage de ressources de manière à ce que les choses soient faites plus efficacement.
Il y aura le micro. Merci de ne pas nous demander plus de ressources. Nouvel intervenant, de rien, Yoran. Yoran, le micro. Comment est-ce que vous êtes intéressé à savoir comment nous avons reformulé le développement au sein du TI? Nous n'avons pas besoin de faire cela maintenant. Nous pouvons en reparler plus tard, mais j'en ai parlé ce matin déjà. Quand nous nous sommes rencontrés, parlons de ça parce que nous recommençons et nous espérons être plus transparents. Mais il est important que nous puissions conserver et nous puissions rester sur nos promesses en allant de l'avant. Merci. Paul Diaz au micro, y a-t-il d'autres questions dans l'audience? Nous avons une question qui devrait être assez rapide. Le troisième point de discussion ici, à l'écran. Je vais demander à John de nous en parler. Merci, Paul. John, Navette au micro. Nous parlons de l'acronyme OIG qui est réservé. Nous ne pouvons pas utiliser l'acronyme IGO à d'autres parties et cela inclut aussi l'IGO lui-même. Cela est en cours depuis 5 ans. Depuis que nous avons signé notre premier accord en 2013, nous en avons parlé, nous avons essayé d'en parler il y a 2 ans. Et nous voulions donc pouvoir attribuer les acronymes IGO aux IGO eux-mêmes. Le RCEP avait été approuvé, mais rien ne s'est passé. Donc, du côté de l'élaboration du département d'élaboration des politiques. Il y a 9 mois, nous avons reçu une lettre de la part d'une IGO qui s'appelait Euclid University. Euclid University, c'est une IGO africaine de soutien. Il voulait Euclid.université. Nous avons demandé à la CAN d'autoriser l'utilisation pour un nom simple et unique. Ça a été refusé. Nous avons des noms IGO qui sont des termes génériques tels que LOS, IDEA, WHO et ECO. Ces noms avaient été réservés pour 5 ans. Que pouvons-nous faire à ce sujet en tant que communauté? Aujourd'hui, nous avons appris durant notre séance avec le GDD que c'est une question qui est interne au Conseil de la CAN. nous ne pouvons rien faire jusqu'à ce que le groupe de travail, jusqu'à la date d'expiration du groupe de travail, des droits du groupe de travail. Nous pouvons donc faire un réglage simple. Nous pouvons faire avec deux caractères. Nous pouvons fournir des protections dans les contrats. Mais il s'agit donc pour le conseil d'administration de la CAN, dans son contrat avec chacun de ses opérateurs de registre, de dire, comme instruit de temps en temps par la CAN, que les opérateurs de registre mettront en vigueur les mécanismes de protection déterminés par le conseil d'administration de la CAN en ce qui concerne la protection des identifiants des organisations intergouvernementales. À chaque fois que quelqu'un va demander un nom de domaine qui correspond aux IGO, ils ne pourront pas utiliser ce nom de domaine. Nous avons fait résoudre le problème avec deux caractères. Nous avons vendu plus de 10 000 noms avec deux caractères. Et ça n'a pas posé de problème. C'est un des facteurs que je vais vraiment essayer de comprendre, de demander, c'est qu'il y ait un certain courage, qu'on ne puisse pas se cacher derrière d'autres processus. Nous savons que nous avons un problème. Cela peut être réglé. Cela peut être fait facilement. Il y a des membres du conseil d'administration qui sont là à la table et j'espère que ces membres vont nous aider à faire cela. Chris Espagne au micro. Le conseil a demandé à ce que je réponde à cette question. Akram peut peut-être nous aider aussi dans la discussion. John, vous allez m'excuser, mais je vais essayer de parler de cela très lentement parce que je vais essayer de bien m'exprimer. Tout d'abord, lorsqu'il s'agit des noms des IGO en question, pas les acronymes, les noms, si je comprends bien, cette question a été résolue. Ils peuvent être enregistrés par les IGO en question. Toutes les choses dont on parle, ce ne sont pas les noms, c'est les acronymes. En ce qui concerne les noms spécifiques dont vous avez parlé, comme celui de Euclide, je suis au courant donc de cela, mais ça ne devrait pas être sur la liste. Comment est-ce que Euclide peut être un acronyme de l'université d'Euclide? Je suis fascinée sur ce sujet. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. C'est leur nom. Et s'ils le voulaient, ils pourraient s'enregistrer comme Euclide.University. Ils ont choisi de mettre ça sur la liste des acronymes. Il faut qu'on l'enlève et régler le problème d'une autre manière. Je ne mets pas Euclide sur la sellette, mais je peux aussi parler du Commonwealth. Le Commonwealth pense aussi que Commonwealth, c'est un acronyme du Commonwealth. C'est fascinant pour moi. Je ne reçois pas d'habitude cette réaction. Il y a de la musique dans la salle, c'est quand même incroyable. On pourrait peut-être retirer des acronymes et les enregistrer. Passons au problème de base. Nous avons des avis du GAC qui dit que les acronymes devraient... Non, excusez-moi, je voudrais repasser sur autre chose. Nous ne pouvons pas permettre dans les processus courants aux OIG de dire « je voudrais enregistrer mon acronyme ». Vous ne pouvez pas dire au CD, par exemple, nous allons relâcher votre acronyme si vous voulez l'enregistrer. Le problème, c'est que d'autres personnes pourraient peut-être le faire. Nous voulons pas confirmer les OIG. Cela pourrait créer des conflits. La raison pour laquelle ça n'a pas été fait, parce que il était très difficile de réserver ces acronymes. Ils n'ont pas droit à ces acronymes. Quand ils essaient, ils peuvent essayer de les enregistrer, ça va, mais on ne peut pas. On est obligé d'arrêter les autres entités d'enregistrer de telles OIG. Le conseil d'administration a dit au GAC qu'on ne le ferait pas. Ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver une manière de les aider. Nous avons trouvé une manière de les aider. Et c'est Bruce qui a facilité une discussion, qui a essayé d'expliquer la liste qu'a fait l'ICANN pour pouvoir laisser, pour pouvoir notifier, donc avertir les OIG si un acronyme était enregistré. C'est quelque chose que nous devons faire pour leur laisser savoir que quelqu'un d'autre a enregistré tel acronyme. Ils n'ont pas de droit curatif. Ils pensent qu'ils n'en ont pas, d'ailleurs. C'est pour ça que le PDP de la GNSO, qui je pense avait été mené par Phil Cohen, c'est quelqu'un d'autre, pour le OIG, c'est un paquet, si vous voulez. Cela veut dire que nous avons publié donc l'avis du GAC là-dessus, mais de façon réglée. Mais nous ne l'allons pas le faire de façon. Nous n'allons pas le faire facilement. Dans le premier PDP, il n'était pas question de droit curatif. Nous avons accepté l'avis du GAC. Au niveau de l'enregistrement, nous sommes rassemblés au Conseil et nous avons dit que ces deux sont contraires. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous continuons à penser que la meilleure manière d'y faire face, c'était de trouver une manière de satisfaire le GAC avec ce que l'on allait mettre en œuvre pour que le GNSO continue à gérer ces histoires de non. À mon avis, pardon, si nous allons finaliser le PDP, est-ce qu'on est prêt à finaliser le PDP? Au fait, notre intervenant m'a dit que le PDP n'allait pas être résolu dans l'avenir proche. Nouvel intervenant, est-ce que quelqu'un veut parler du PDP en lui-même? Akram, vous voulez parler? Oui. Merci, c'est le moment. Et on lui passe la parole. Akram, au micro. Je suis un des coprésidents de ce PDP avec M. Wentworth. Et la situation au sein du PDP, du moins à Abu Dhabi, où nous étions prêts à conclure, nous avions trois options de politique. Nous avions donc un consensus à l'époque et maintenant, beaucoup des membres du groupe de travail sont revenus sur leurs décisions ou leurs positions. Les membres ont commencé à présenter des nouvelles options de politique. Et maintenant, nous avons six options de politique. Un autre membre a aussi essayé d'obtenir l'avis du groupe de travail pour savoir exactement quelles étaient les options qui allaient être adoptées pour pouvoir initier le processus de consensus. Un autre membre aussi a fait appel pour prévenir le groupe, pour pas qu'il n'y ait de réunion du groupe. Le coprésident a fait communiquer avec la personne qui a fait appel. Il a refusé l'appel. Il a parlé avec le président du GNSO et la liaison. Et la liaison, durant cette réunion, et durant la semaine à venir va communiquer avec tous les membres du groupe de travail pour savoir où ils en sont au niveau des options qui ont été proposées. Donc nous avons eu beaucoup de délais inattendus parce qu'il y a eu des développements inattendus depuis Abu Dhabi. Et je ne peux pas prévoir les résultats, mais je pense que, à moins que quelque chose change de façon significative, nous sommes dans une position où les membres du groupe de travail, surtout ceux qui sont très actifs, donc d'atteindre une résolution à cette question. Nous allons peut-être être dans une situation où nous aurons la majorité du groupe qui sera en faveur d'une certaine approche, mais pas assez pour avoir un consensus afin qu'il y ait une approbation complète du Conseil. Voilà où nous en sommes. Nous avons fait du mieux possible en tant que vice-président pour résoudre le problème. Mais un des membres du groupe de travail, donc, nous a un petit peu compliqué la tâche. Nous voulons travailler avec les liaisons. Et je pense que demain, nous allons pouvoir avoir une séance et écouter les membres du groupe de travail pour avoir une meilleure idée où nous en sommes. Et dans les deux semaines à venir, nous devrions avoir un peu plus d'informations. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Chris Espen au micro. Que va-t-il se passer si il n'y a pas une recommandation complète ou s'il n'y a pas de recommandation du tout? Nouvel intervenant, c'est un problème de contrat. Nous pouvons travailler sur la protection qui ne passe pas par les processus d'élaboration politique, comme nous avons fait dans d'autres cas quand il s'agissait de deux caractères. Nous pourrions avoir certaines personnes dans une salle qui vont entamer une conversation avec d'autres personnes et nous pouvons voir si nous pouvons trouver une protection qui serait valable. Christ Espen au micro, je pense que c'est une idée intéressante. Continuez à en parler. On ne va pas en parler maintenant, mais ça vaut le coup d'en parler. Surtout si nous pensons qu'il y ait une possibilité que le PDP en lui-même puisse atteindre une conclusion. Nous devons essayer de travailler là-dessus. Christina au micro. Je ne sais pas si ça correspond bien à la conversation qu'on a en ce moment, mais à la suite de la facilitation que Bruce a fait, il y avait un avis du GAV qui en est ressorti au sujet de la notification. Un système permanent de notification par les OIG en ce qui s'agit de l'enregistrement de deuxième niveau des chaînes qui correspondrait avec les acronymes en deux langues. En parallèle, et un système parallèle de notification pour les titulaires de noms de domaine pour une période de temps limitée avec l'avis du GAC et les recommandations du GAC, du GNSO, pardon. Et la réponse du conseil d'administration était qu'ils étaient d'accord avec cet avis. Donc je me demande si c'est peut-être une bonne solution. Est-ce que on peut commencer par là? Chris Espen, oui, je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas si... Je sais que nous pouvons dire que soit ceci est acceptable vis-à-vis des OIG ou non. Je ne dis pas que c'est pas un bon point de départ. Je pense que c'est le cas. Christine, un micro. Je pense que James en avait parlé. Si je me souviens bien, il y a un an, je pensais qu'il y avait un accord pour aller de l'avant en mettant en place le système de notification d'avertissement. Et cela fait déjà un an. Et si ça n'a pas commencé encore, nous sommes déjà en retard. Chris Espen, c'est une bonne question. Akram, vous voulez répondre à cela? Peut-être sans juste hocher la tête. Akram, au micro. Nous avons commencé travailler là-dessus. Nous pensons que ça ne va pas prendre énormément de temps pour mettre cela en application. Une fois que nous avons l'accord de mettre ça en application, ça ne va prendre que quelques semaines. Chris Espen, Bruce, au micro. Juste un commentaire. Vous avez parlé de droits curatifs. Lorsque nous avons tenu donc cette séance de consultation, nous sommes rendus compte que certains de ces OIG avaient des droits juridiques. Donc, on peut parler des droits curatifs. Ils ont des droits, on ne les crée pas, ces droits. La GNSO voulait savoir s'ils pouvaient trouver une solution. Il y a des droits de marque. Nous ne les avons pas créés. Elles existaient déjà. Elles avaient déjà un cadre juridique en dehors de l'ICANN. Il faut voir si on peut trouver une façon efficace de discuter de ce conflit. Je pense qu'une position d'attente serait bonne et ainsi on pourrait avertir les OIG pour qu'ils puissent faire exercice de leurs droits juridiques. Quand j'écoutais le président du groupe de travail, j'ai entendu qu'ils n'avaient pas trouvé de résolution. Ils ont des droits juridiques. Ils peuvent utiliser les lois qui les protègent. Chris Espen, oui, merci pour votre commentaire, Bruce. Ce sujet sera soulevé avec le GAC cet après-midi. Mais je pense que, John, on peut parler de cela séparément plus tard.
Nouvel intervenant. Alors, nous avions un quatrième point. On pensait que ça prendrait trop de temps, en fait, ce quatrième point. Mais vous avez une réponse. Eh bien, alors, très bien. Nouvel intervenant au micro. Nous pensons que c'est une excellente idée. Les contrats sont longs, compliqués. Il y a tout un tas de choses qui existent et qui ajoutent à la complexité. Et donc, je pense que c'est effectivement une bonne idée et nous sommes prêts à en parler avec vous. Nouvel intervenant au micro, c'est excellent. On voulait revenir vers vous parce qu'en fait, on a davantage d'idées, de suggestions et donc on pourra en parler davantage à l'avenir. Ce qu'on souhaitait proposer, eh bien, c'était le RGPD. On est obligé d'en parler, n'est-ce pas? Donc, on va vous en parler un petit peu. Sam, au micro. Yoran, je vois que vous étiez déçu parce qu'on n'en avait pas encore parlé. Yoran, au micro. Je crois que lors de la prochaine réunion de l'ICANN, je réserverai une salle anti-RGPD. Alors, dans le cadre réglementaire, on en parlait tout à l'heure dans notre séance conjointe. Donc, la question, c'est vraiment ça, la réglementation. À quoi va-t-elle ressembler pour ce modèle RGPD? Quels sont les nouveaux accords? Quels sont les processus de dérogation qui vont être mis en place pour le modèle? Donc, on voulait vous poser cette question en tant que conseil d'administration. Quelles sont les conversations que vous avez eues au niveau du conseil d'administration? Et est-ce que le conseil a pensé à différentes initiatives du point de vue réglementaire? Parce que nous savons que le personnel n'a pas répondu à cette question. Nouvelle intervenante au micro. Alors, du point de vue réglementaire, attention... déni de responsabilité. Hein? Donc, nous avons passé pas mal de temps dans nos ateliers et dans nos réunions au cours de l'année passée sur cette question. Nous avons également passé beaucoup de temps à en parler cette semaine. Donc, nous surveillons la situation de près et nous sommes impatients de voir les rapports par rapport au progrès, ils seront disponibles au cours des semaines à venir. Donc, les rapports avec le groupe de travail de l'article 29, l'ICANN sera impliquée dans la discussion. Nous avons lancé des discussions sur le rôle du Conseil, s'il y en a un. Il y a des approches très simples. Par exemple, dérogation de conformité, tout ce qui pourrait être mis en place depuis une annonce par l'ICANN, comme quoi nous allons vous dire que vous êtes conforme si vous faites X, Y, Z, avec des variantes peut-être, comme l'adoption d'une spécification provisoire. Alors, attention, je souligne fortement le fait qu'on ne parle pas d'un amendement au contrat qui serait une idée folle pour n'importe quelle raison sujette à test. Bon, on ne parle pas de ça, mais une disposition dans le contrat registre et bureau d'enregistrement qui permettent la création d'une spécification provisoire en cas d'urgence avec des délais très stricts pour la création d'un PAP, le calendrier de mise en place, etc. Et suivant donc les recommandations qui auront été avancées. Donc, ce pourrait être une spécification provisoire. Et donc, ce serait quelque chose qui serait adopté par le conseil d'administration si les circonstances correspondent au test. Donc, nous allons surveiller ceci de près. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise. Nous attendons des indications de la part des APD en particulier. Nouvelle intervenante au micro. Yoran au micro, pardon. Nous ne parlons pas de cadre réglementaire. Nouvelle intervenante. Oui, et Becky l'a bien expliqué. J'utilisais en fait le court terme parce qu'il y aura énormément de papiers qui vont de travail pour nous. Alors ma question c'est, est-ce que vous pouvez nous donner des délais? Quand est-ce que les informations nous seront communiquées de la part de l'APD? Quand est-ce que la discussion se poursuivra? Nouvelle intervenante au micro. Le conseil nous a dit que ce serait la semaine du 26, donc le 27 ou le 28 sans doute. Il y aura des personnes qui seront à Bruxelles et qui seront sur place pour participer aux discussions. On en a parlé tout à l'heure. Il est tout à fait probable qu'il faudra qu'il y ait un petit peu des compromis. Ils ont reçu le livre de recettes lorsque nous l'avons publié. Et donc, nous espérons que les conversations seront des conversations très en profondeur par rapport à ça. Nous espérons qui nous diront certaines choses et ensuite nous reviendrons vers eux pour leur demander de clarifier ce qu'ils auront dit. Mais bon, le temps passe et donc, vous savez, les ingénieurs, je les ai tous les jours dans mon bureau, donc je comprends tout à fait votre point de vue. Mais je crois que suite à Bruxelles, il y aura des mises à jour intérimaires. Je pense que vous êtes d'accord, John? John au micro, oui, tout à fait. Nouvelle intervenante au micro. Merci, Becky. On va demander à Max de parler. Max au micro. Alors, pour clarifier, est-ce que le Conseil sait que dans le cadre du RGPD, il doit y avoir un conseil qui soit formé, qui n'a pas été formé, avec des groupes de travail, des équipes spéciales qui ne seront pas nécessairement responsables des avis par rapport à l'article 29. C'est en fait une autre entité qui va étudier la question. Ce n'est pas aux APD de vous donner des avis précis. À mon avis, ce n'est pas réaliste. En général, il vous donne une sanction et une résolution du pourquoi. Nouvel intervenant. Selon moi, l'équipe article 29 répond au Conseil de protection des données européen. C'est une autre organisation avec de nouveaux pouvoirs, y compris le pouvoir généralisé pour la solution. De toute évidence, le Conseil sait que le groupe de travail de l'article 29 n'est pas obligé de donner des avis. Ce groupe de l'article 29 a, de temps à autre, fourni des recommandations, que ce soit sous forme de documents ou d'une lettre. Nous avons reçu beaucoup de lettres par le passé. Donc, nous savons que ce n'est pas un résultat qui est garanti. Nous avons entendu des rapports comme quoi selon ce qui a été entendu, les choses sont prometteuses, mais ils savent qu'il y a potentiellement des résultats très négatifs qui pourront ressortir d'une absence de recommandations ou si, par exemple, leurs recommandations ou leurs avis ne peuvent pas être mis en œuvre concrètement. Donc, nous espérons avoir des recommandations, des avis très concrets. Jeff Newman, au micro. Encore une question. En tant que bureau d'enregistrement, ce qui nous inquiète, c'est d'avoir 1200 nouveaux contrats RA ou RRA parce que il faudra s'en occuper. Donc, en tant que bureau d'enregistrement, j'espère que vous nous aiderez à voir comment nous pouvons revoir tous ces accords, tous ces contrats et les signer d'ici la date butoir au mois de mai. Donc, j'espère que peut-être par le biais du contrat d'accréditation, sans tout revoir. Mais donc, je n'ai pas envie d'avoir à signer 1200 nouveaux contrats. Ce serait quand même bien. Nouvelle intervenante. Ce n'est pas un problème ICANN, mais ce qui se passe, c'est que les gens signent des ajouts, des annexes sur la protection des données. Donc, c'est peut-être quelque chose qui pourrait fonctionner, d'avoir un formulaire sur la protection des données, un formulaire supplémentaire. C'est peut-être quelque chose que l'ICANN pourrait faire, mais je comprends bien que 1200 contrats, c'est beaucoup. Donc, je suis tout à fait prête à travailler un formulaire de base. Voilà, je voulais simplement le mentionner. Yoran au micro. Par rapport au RGPD, nous avons une séance supplémentaire et l'idée, c'est de poser toutes les questions à JJ parce que moi, je n'ai pas de réponse. Et donc, l'idée, c'est de parler du processus à venir. Mais j'encourage tout le monde, si cela vous intéresse, à venir écouter notre chef cuistot, Jeff. Alors, c'est demain matin à 9h30, n'est-ce pas? Je crois que c'est ça. Alors, je passe la parole à Graham pour une autre question. Graham au micro. Je suis du groupe des bureaux d'enregistrement. Alors, je crois que la discussion d'aujourd'hui a été excellente. Je pense que tous nous en tirons quelque chose d'intéressant. Maintenant, la partie suivante, ce n'est pas une critique de ce qu'on a fait aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un certain manque de satisfaction des parties contractantes. Les réunions avec le conseil d'administration ont tendance à toujours être un échange, mais qui n'est pas suffisamment riche. On entend certaines personnes parler. C'est un petit peu, on se passe la balle d'un côté à l'autre. Mais ce qu'on aimerait voir avec le Conseil, c'est d'autres options pour mieux structurer nos séances. Bon. On pourrait peut-être procéder de manière plus sociale. On pourrait se diviser en équipe, pour discuter de sujets précis. Et puis également, mieux préparer les réunions de manière à ce qu'il y ait davantage de personnes qui s'expriment pour qu'on puisse vraiment entrer en profondeur dans les questions dont nous parlons. Alors, je ne sais pas si vous avez le même point de vue. Je ne sais pas si vous adorez la structure actuelle. Est-ce qu'on laisse les choses telles qu'elles sont? Ou alors, est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer le processus? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Voilà. Nouvel intervenant au micro. Oui, effectivement, Graham, nous en avons parlé déjà. Je crois qu'à un moment, j'avais même suggéré qu'on essaye de trouver des questions hypothétiques, comme par exemple les acronymes OIG. Peut-être que John pourrait faire comme s'il était membre du GAC. Mais je pense que ça va être un peu trop loin. Mais je crois que la réponse à votre question, c'est que nous sommes prêts à parler de la gestion de ces sessions. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier les contraintes. Nous le faisons avec tous. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit faire les choses exactement pareilles que les autres, mais nous avons également le calendrier, l'emploi du temps, etc. Donc, je suis tout à fait prêt à discuter avec vous pour voir s'il y a des suggestions. Alors, je crois que Jonathan veut dire quelque chose. Allez-y, Jonathan. Merci, Chris. Donc, Jonathan au micro. J'ai une question. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de ça. Vous retrouvez différentes unités constitutives pendant la journée. Est-ce qu'il y a des gens qui gèrent mieux la réunion? Est-ce qu'il y a une séance qui est très productive par rapport aux autres et qui peut-être utilise un format approprié, ou est-ce que c'est à peu près tout le temps pareil? Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être utiliser des méthodes qui existent chez d'autres? Je vois que Chérine a levé la main. Je ne sais pas s'il veut mentionner quelque chose. Chérine au micro. En fait, ce format, nous l'utilisons avec toutes les unités constitutives. C'est un format qui est ancien, certes. Et il y a un avantage et quelques désavantages. Donc l'avantage, c'est l'envoi des questions à l'avance. Donc ça permet de se préparer à avoir une réponse, mais l'idée de se préparer à répondre, c'est pas non plus de répondre à chaque question en 10 minutes, c'est aussi de donner une réponse rapide qui puisse simuler la conversation et le dialogue entre nous. Et c'est pas ce qui se passe, on a des réponses complètes et parfois il y a beaucoup de discussions sur certains sujets. En fait, nous avons eu la même question pour la GNSO il y a quelques jours. Et une alternative, ce serait de parler des sujets plutôt que d'avoir un format question-réponse. Chacun aura sa réponse aux différents thèmes à ce moment-là. Parce que nous passons en revue vos questions, nous nous préparons bien et nous allouons les questions de manière individuelle suivant les personnes qui connaissent mieux les thèmes. Et c'est ces personnes-là qui sont chargées du sujet. Donc, il se trouve que les questions, c'est surtout le budget, le RGPD et les acronymes OIG, par exemple. Et donc, en principe, les personnes qui répondent à ces questions sont les membres du conseil d'administration. Et on ne va pas demander à tout le conseil de se mettre à la table, parce que sinon c'est trop compliqué. Et puis il y a un autre problème, c'est qu'on ne se retrouve pas souvent. Donc la relation entre nous est relativement formelle, c'est uniquement 3 fois par an, et donc il n'y a pas de dialogue continu. Et ça, c'est un autre problème à prendre en compte. Il faudrait qu'il y ait d'autres formats, d'autres moyens de discuter entre ces deux réunions, enfin entre deux réunions plutôt. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Tout le monde ne se plaint pas du format, mais nous l'avons déjà entendu dire par vous, par le conseil de la GNSO. Pour vous, c'est froid, c'est trop formel et ça manque de dialogue, en fait. Et je comprends tout à fait. Donc nous sommes ouverts à écouter vos idées et on pourrait peut-être trouver des moyens de rendre les choses plus intéressantes. Nouvel intervenant. Merci, Chérine. Effectivement, on peut y réfléchir. J'ajouterais juste une chose. Ce n'est pas d'avoir soit une solution, soit l'autre. On pourrait, par exemple, pendant une réunion, le faire selon ce format et deux fois par an, on fait autre chose. Donc, cette opportunité existerait aussi, mais il pourrait y avoir aussi d'autres opportunités. Nouvel intervenant au micro. Oui, je suis d'accord. Effectivement, ce que l'on pourrait faire, par exemple, c'est qu'on pourrait... Et en fait, ça dépend des autres dans la salle. Est-ce qu'ils souhaitent participer ou est-ce qu'ils souhaitent simplement nous écouter? On pourrait dire, bon là, sur la question du budget, sur la question du fonds de réserve et sur la question des OIG. Donc, on va faire trois groupes de personnes. Et si c'est la question des OIG qui vous intéresse, on va en parler là-bas dans le coin de la salle. Autre question sur le RGPD, autre coin dans la salle. Mais ça, c'est une idée, mais ça veut dire que les informations ne sont pas communiquées à tout le monde. Alors, réfléchissez-y, dites-nous ce que vous en pensez. On pourrait y réfléchir, mais ça dépend. Je ne sais pas ce qu'attendent les gens. Sam au micro. Ça ne veut pas dire que les informations ne pourront pas être disséminées, mais au lieu d'avoir toute la transcription, on pourrait simplement prendre des notes. Donna Austin au micro. Je crois que si on fait quelque chose de ce type, il faut comprendre quel est l'objectif. C'est ça l'important. John a une question qui dépend du conseil d'administration. Nous cherchons votre réponse. C'est une excellente idée. Nous avons 90 minutes, deux fois par an, je crois. Parce que je ne sais pas si on se retrouve lors de la réunion B. Donc, c'est 90 minutes deux fois par an. Alors, si on fait quelque chose comme ça, il faut bien comprendre quel est l'objectif et ce que l'on souhaite en tirer. Yoran a dit plusieurs fois que l'ICANN ne prend plus de décisions parce que c'est à vous de le faire, parce que c'est vous la communauté habilitée. Donc, il faut vraiment bien comprendre les relations, les responsabilités par rapport aux questions que nous traitons. Donc, il y a plusieurs choses potentiellement à tirer de ça. Il y a la question des révisions. Ça, on va en ressortir de cette réunion. On pourrait peut-être en parler avec la communauté. Je crois qu'il faut bien comprendre l'objectif, ce que l'on fait, et voir avec quoi on va ressortir. Chérine au micro, je voudrais vous donner un exemple, Donna. La discussion sur les acronymes des OIG, ça a été une excellente discussion, mais à la fin, on a dû réduire ou interrompre la discussion. Et s'il y avait un groupe qui, pendant une heure et demie, en parlait, je pense qu'on aurait atteint, on serait arrivé à un résultat, on serait allé un petit peu plus loin dans la question. Là, on a été obligé d'interrompre la conversation. Donc, ça veut dire que chaque sujet de discussion serait vraiment discuté dans les détails. Nouvel intervenant. Je pense que c'est ce qu'il faut faire au mois de mai. Vous avez un atelier du Conseil à Vancouver. Nous avons notre sommet GDD qui commence le lundi soir. Et on utilise le lundi soir. Et on pourrait peut-être avoir des membres du Conseil qui restent le lundi. Et on pourrait effectivement constituer des groupes séparés pour avoir un dialogue. Nouvel intervenant, Chuck Gomez. Alors, merci beaucoup, la discussion est excellente.
Ici, une question, on a juste besoin d'une réponse. C'est ce qui est bien durant ces forums. Il faut considérer les thématiques Il faut que cette thématique encourage donc une interaction. Je pense que ce serait plus bénéfique. Et si vous voulez une interaction des personnes autour de vous, quand il s'agit de poser une question et qu'il n'y a pas, qu'il ne génère pas une réponse, là, l'interaction n'est plus possible. Ça ne génère pas assez d'interaction. Je pense qu'il faut qu'on clarifie tout ça. Quizzisman, merci Chuck. Bonne discussion. Nous allons continuer à contribuer les uns les autres et nous espérons vous voir plus tard. Merci.